Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
En ce 1er avril, Franck Ferrand a décidé d'inviter un homme dont le nom même est presque devenu synonyme de canular et de bonne blague. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. En effet, le plus grand farceur de France, celui qui, l'homme de la caméra invisible,
bien
évidemment,
sûr.
Le fidèle compagnon sur Europe 1 de son frère Jacques, bien sûr, et du cher Pierre Bellemare, Jean-Paul Roulan a répondu à mon invitation en ce 1er avril.
D'ailleurs Franck, vous qui savez ces choses-là, vous pouvez nous dire d'où vient cette tradition du poisson d'avril et de ses poissons ?
Oui, en fait, ça remonte au 16e siècle et à l'édit de Roussillon qui a été pris en 1564 par Charles IX et qui est entré en vigueur en 1567. Vous savez que jusqu'ici, on avait l'année commençait à des dates différentes en fonction des provinces. Et puis, on décide donc à cette époque que l'année commencera le 1er janvier. Ce qui fait qu'on va transférer les fêtes, les étrennes, tout ça, du 1er avril au 1er janvier. Mais il reste ce 1er avril qui reste une sorte de faux 1er de l'an, si vous voulez, et on va prendre très vite l'habitude de s'offrir de fausses étrennes, des étrennes un peu rigolotes.
Mais pourquoi justement des poissons en fait ?
Ah, alors ça reste un peu flottant si je puis dire à propos de poissons. Ce matin, dès 6h20, j'étais chez Benjamin Pétrovert et je disais qu'on ignorait la raison qui avait fait du poisson l'emblème de cette journée particulière du 1er avril. Et puis évidemment, pendant toute la matinée du coup, j'ai eu des appels au téléphone, on m'a proposé pas mal de solutions. Je vous avoue que je suis pas beaucoup plus avancé que ce matin. Ce qui a l'air probable, tout de même, c'est qu'il y ait une origine chrétienne dans cette tradition. Mmh. Le poisson étant, vous savez, l'emblème des premiers chrétiens, et le mot même étant peut-être, je dis bien peut-être, une déformation du mot passion. Après tout, on approche de la Semaine Sainte, donc bon, passion, poisson, pourquoi pas.
Il me semble que vous n'avez pas l'air très convaincant. Alors cette coutume d'organiser des canulars, d'où ça vient ?
Alors ça, c'est donc né, je vous dis, de cette habitude de se faire de fausses étrennes. Ouais. Et puis dès la fin du XVIe, dès le début du XVIIe, alors là, on se met vraiment à institutionnaliser la chose. Hein, on multiplie les canulars et l'exemple venait d'en haut puisqu'on se faisait beaucoup de farces à la cour, notamment. Par exemple, un certain 31 mars, le conseiller d'État Bautru avait promis au tout jeune roi Louis XIV qu'il allait faire une bonne farce, qu'il allait donc faire un beau poisson d'avril. Or, voilà justement que la reine-mère, Anne d'Autriche, l'apostrophe pour lui rappeler qu'il ne lui a toujours pas présenté sa femme. Là, c'était trop beau. Bautru saute littéralement sur l'occasion. « Mais dès demain, madame, s'il plaît à votre majesté, » répond-il. « Simplement, sachez que mon épouse est très dure d'oreille. »« Qu'à cela ne tienne, monsieur, » répond la régente, « je parlerai haut. » Évidemment, Madame Bautru entendait aussi bien que vous et moi. Mais le soir même, son mari lui annonce qu'elle sera présentée le lendemain à la reine-mère et que cette pauvre régente est complètement sourde comme un pot, qu'il faut donc qu'elle force la voix. Et le lendemain, dès que la reine aperçoit Madame Bautru, aussitôt elle se met à hausser le ton, bien entendu. Et l'autre se met à lui crier littéralement aux oreilles, ce qui il paraît qu'elles ont hurlé comme ça pendant un quart d'heure. Et le pauvre Louis XIV a failli s'étouffer de rire. On pourrait raconter comme ça d'innombrables canulars. J'en ai recueilli une cinquantaine ce matin, ça ferait presque l'objet d'un livre, mais un livre avec des aspects cocasses, des aspects amusants de l'histoire, on en a déjà un ici même, puisque c'est le dernier ouvrage de Jean-Paul Roulan qui va nous servir aujourd'hui de fil conducteur.
Sur Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Bonjour Jean-Paul Roulan, merci beaucoup d'être des nôtres. Alors on peut dire que vous, le canular, vous en avez fait quasiment un métier, notamment à travers cette émission devenue mythique, La Caméra Invisible.
Bonjour à tous d'abord, et puis c'est vrai, surtout mon frère Jacques, c'est Jacques surtout qui a fait La Caméra Invisible. Nous avons avec Pierre fait les premières caméras invisibles, et surtout la première dans une émission qui s'appelait Le Bon Numéro, et qui a servi de modèle, si vous voulez, à toutes les autres qui ont
suivi. C'était l'étalon des caméras invisibles.
C'était l'étalon des caméras invisibles que nous avons faites dans cette émission.
Vous vous rappelez la première ?
Absolument, absolument. C'est moi qui m'en suis occupé pour cause. La première, nous avions enlevé le moteur d'une voiture américaine, Et dans la descente à côté de Versailles, de Ville d'Avray, il y a une station-service.
Une grande descente. Hein,
voilà, il y a une grande descente et au milieu, il y a une station-service. Alors, voilà, la voiture dévale, évidemment, s'arrête devant le poste d'essence. Le gras descend, s'approche le pompiste et il dit « Le plein vérifié, l'huile et l'eau, où sont les toilettes ?» Voilà, et il s'en va. Et à ce moment-là, bien sûr, on filmait, et le type fait le plein d'essence, il ouvre le coffre, n'est-ce pas ? Enfin, le coffre,
le capot,
il soulève les... Ah, il reste les mains en l'air, en regardant, et il referme, et il appelle Polo ! Il y avait son copain qui dit, viens, une seconde, attends une seconde, on vient ! Il vient, et il avait rebaissé, bien sûr, le capot, et au moment où Polo arrive, il lui fait, regarde ! Et l'autre regarde et fait, oh, les cons ! Ils lui ont volé son moteur. Et à ce moment-là, bien sûr, revient le gras. Et il rebaisse à nouveau le capot. Et il dit à le gras, ça devient complètement fou, n'est-ce pas ? Il lui dit, elle couche où, votre voiture ? Ben, au garage. Mais il ferme à clé, votre garage ? Alors, il dit, bah, pas toujours. Il dit, bah, regardez, on vous a volé votre moteur. C'est ça, la première réaction. Avouez que c'est extraordinaire. Et alors, après ça, il partait sur des considérations de vol. Oui, à lui, on lui a volé sa roue de secours, etc., etc. Sans se soucier un seul instant.
Comment la voiture avait pu venir là?
C'est quand même extraordinaire. Ça, c'est la toute première des caméras visibles.
On va vous faire une petite surprise, Jean-Paul Roulant. Vous vous rappelez ça? Enfin,
ça
si,
arrive.
Si ça arrive, mais je pense que ça va arriver. Je les ai surpris, vous voyez.
Le Cisco. Bonjour à tous. Le Cisco avec Jean-Paul Roulant, Jacques Roulant, Harold Kay. Le Cisco, nous avons la joie de vous annoncer que vers 12h35, notre président, M. Floira, viendra ici même remettre à Mme Marie-Thérèse Ginet, qui est ici au premier rang, le chèque d'1 024 000 francs, lourd, 102 400 000 centimes, qu'elle a gagné, je vous le rappelle, au cours de 4 émissions mémorables.
Elle a des noms qui nous sont chers à Europe 1, et des voix, évidemment, la voix inoubliable de Pierre Bellemare, que nous saluons très chaleureusement. On entend le nom d'Harold Kay, qui donnait toujours l'heure sur sa montre Seiko Quartz.
Harold, qui était un homme charmant, délicieux.
Et puis, Sylvain Floira, qui était donc le grand patron, l'un des fondateurs d'Europe 1.
Le président Floira. Ben oui, on avait un jour, d'ailleurs, ici, au cours d'un jeu, on avait perdu 1 000 000 de francs, de francs. Et puis, 15 jours après, on repère un nouveau 1 000 000 de francs. La première fois, on était heureux puisqu'on avait perdu le deuxième. Et le matin, je rencontre ici le président Floira et je lui dis, ça va, président ? Il me dit, vous êtes un rigolo, vous.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1. Et jusqu'à 14h30 sur Europe 1, plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Et en ce 1er avril, c'est Jean-Paul Roulant qui est notre invité aujourd'hui, acteur, réalisateur, animateur de radio ici même à Europe 1 et auteur du livre Petites histoires de l'histoire de France chez Hugo et compagnie.
Un livre qui présente l'histoire sous des aspects drôles, cocasses, inattendus, bourrés d'anecdotes. Alors ce qu'il faut savoir, Jean-Paul Roulant, c'est que vous aviez publié, mais pour vous et pour vos amis, si je puis dire, de façon très privée, un magnifique recueil il y a quelques années maintenant qui s'appelait Le Curieux de Paris, dans lequel vous aviez illustré d'ailleurs vous-même toutes sortes d'anecdotes parisienne.
Absolument.
Et dans ce livre-là, on retrouve ces anecdotes, mais alors étoffées, développées, et puis on parle de plein d'autres sujets.
Oui, et puis plein d'autres, parce que je m'étais limité à Paris, tandis que là, c'est la France entière.
Alors, d'où vous viennent toutes ces histoires incroyables et tous ces recoupements de l'histoire, ces ironies du sort ?
Bah, écoutez, je pense que c'est tout simplement ce que nous avons fait ici à Europe pendant 20 ans, et puis ce que nous avons fait aussi à la télévision pendant 30 ans avec Pierre.
C'est-à-dire retrouver tout ce qu'il y avait d'un peu saillant, d'un peu étonnant.
C'est-à-dire, non mais pour faire des jeux, faut poser des questions. Voilà. Pour poser des questions, il faut connaître un petit peu l'histoire parce que ça tourne autour. Et Pierre adorait d'avoir une petite anecdote derrière parce que c'est toujours vrai. Une question sèche, c'est pas drôle. Poser une question de date, ça n'a aucun intérêt, n'est-ce pas ?
Oui, il faut que ça permette de parler.
La petite chose derrière qui l'amène. Alors donc, ça nous a amené à avoir plein d'anecdotes. Et comme j'ai une excellente mémoire et surtout les plus drôles, j'ai gardé les plus cocasses, comme le dit Alain Decaux qui a préfacé
l'ouvrage.
Mon livre.
Ça nous permet d'ailleurs de dissiper tout de suite un possible malentendu. Toutes ces histoires sont, c'est vrai, drôles, cocasses, parfois assez incroyables, mais elles sont authentiques. Elles appartiennent à l'histoire ou en tout cas à la chronique historique. Alors je ne dis pas que certaines ne pourraient pas être contestées historiquement, mais en tout cas, elles ne sont pas du tout imaginaires, loin de là.
Pas du tout. En effet, elles sont toutes vraies, puisque authentiques. Et je dirais même que certaines que j'ai trouvées ont étonné Decaux. Il y en a une au moins que je lui ai appris. C'est pourquoi on a fait la Tour Eiffel. Vraie raison pour laquelle on a fait la Tour Eiffel.
Bah dites-la nous, tiens.
Eh ben je vais vous le dire.
On a fait
la Tour Eiffel pour que tout simplement le drapeau de la République flotte au-dessus des croix, plus haut que la croix du Sacré-Cœur et celle de la Basilique Sainte-Geneviève. Il y avait sur la Basilique Sainte-Geneviève et entre la croix du Sacré-Cœur et de la Basilique, il n'y avait pas la place, n'est-ce pas,
exactement,
du drapeau français. Et c'est pourquoi on a demandé à Eiffel de faire d'abord
un pylône
au début, c'était un pylône que c'est pas Eiffel qui l'a fait, c'est ses ingénieurs
et Quechelin et Nouguier.
Voilà, exactement. Et donc ils ont fait un pylône, c'est un porte-drapeau et on peut dire aujourd'hui tout simplement que la Tour Eiffel c'est une hampe du drapeau tricolore pour qu'il flotte au-dessus de l'église.
Il ne faut pas oublier que c'était pour le centenaire de la Révolution en 1889 et que d'ailleurs cette Tour Eiffel, avant de s'appeler Tour Eiffel, devait s'appeler le phare de la Révolution. Alors on apprend comme ça énormément de choses dans votre livre. On apprend que les pentures, c'est-à-dire les ferronneries des grandes portes, tellement belles ferronneries de Notre-Dame de Paris, sont dues à un certain Biscornet.
Oui, monsieur Biscornet, bien sûr, qui avait un nom biscornu, il faut
bien le dire. On apprend que Deschanel avait les pieds propres et que Landru serait mort les pieds sales.
Oui.
Bref, on apprend beaucoup de choses. Et notamment, vous avez dans ce livre un certain nombre de révélations sur des sujets que nous avons abordés, nous, depuis un mois à ce micro. Alors si vous voulez, ça va être le jeu du jour, en quelque sorte. C'est pas le Cisco, là, c'est la reprise de nos grands sujets.
Adore.
Et on va voir point par point ce que vous avez à nous apprendre sur ces sujets. Alors on va commencer par la Tour Saint-Jacques, puisqu'une de nos toutes premières émissions cette année, c'était donc Nicolas Flamel. Vous nous dites que la Tour Saint-Jacques donc faisait partie de cette église Saint-Jacques de la Boucherie,
qui était au cœur
de Paris. Or, en 1792, on détruit l'église elle-même. On est en pleine révolution. Il y a énormément d'édifices religieux à l'époque qui ont été détruits parce qu'ils avaient été vendus comme biens nationaux, simplement.
On l'achetait pour les démolir, pour récupérer les pierres.
Et pourquoi est-ce que la Tour Saint-Jacques n'est pas démolie? Alors, l'autre jour, j'ai dit, moi, et là, je fais mon mea culpa, je vais en faire un certain nombre dans l'émission. J'ai dit l'autre jour aux auditeurs que l'une des raisons, ce serait qu'on pensait que Pascal avait fait ses expériences sur la pesanteur, en tout cas, les avait vérifiées ici. Sauf que, vérification faite, l'église Saint-Jacques de Blaise Pascal, c'était Saint-Jacques-le-Haut qui se trouvait sur la montagne Sainte-Geneviève. Donc
voilà.
Ça n'est pas celle-ci.
C'est pas celle-là.
Pourquoi est-ce qu'on n'a pas détruit la...
Eh bien, tout simplement parce que, donc, au moment où on arrivait, on avait démoli la nef, déjà. On arrivait à la tour et elle a été louée. Elle a été louée par un fondeur de plomb de chasse qui cherchait une tour pour pouvoir faire son plomb.
Mais pourquoi alors expliquer aux gens
parce que,
alors,
parce qu'on fond le plomb à l'extrémité, n'est-ce pas, en haut, tout en haut, on fond le plomb, on le met dans des cribles de différents diamètres. Et le plomb en tombant, les gouttes de plomb en tombant s'arrondissent, c'est une logique absolue, tombent dans des bacs de flotte, et puis il n'a plus qu'à les récupérer là. Elle a donc été sauvée, Saint-Jacques a été sauvée, par les chasseurs parisiens. C'est quand même énorme, ça. Hein,
voilà exactement le genre de petites choses qu'on découvre dans ce livre, qui est fourmillant d'anecdotes. Puisqu'on est sur Saint-Jacques de la Boucherie, parlons d'une autre église parisienne en deux mots. Mais c'est cette extraordinaire basilique Sainte-Geneviève qui très vite devient le Panthéon.
Ah, c'est extraordinaire, parce que Sainte-Geneviève, n'est-ce pas, qui a changé, a été achevée. C'est Louis XV qui avait fait le vœu, n'est-ce pas, de construire une basilique à la patronne de Paris. Et puis, les ennuis d'argent, ils ont trouvé au-dessous les fondations qui étaient très difficiles à faire, font qu'elle va être inaugurée en 1789. C'est quand même grave.
Ça tombait pas bien.
Et alors, très vite, à la mort de Mirabeau, on confisque bien sûr la basilique. On ne va pas la démolir, elle est toute neuve. Et on la transforme en panthéon, n'est-ce pas? Et alors, on met au-dessus la renommée avec sa trompette.
Aux grands hommes, la patrie reconnaissante.
Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Et puis, arrive à ce moment-là Bonaparte, Napoléon. Hein, Napoléon veut se mettre bien à nouveau avec l'Église et il rend à Sainte-Geneviève. Et puis, elle va être reprise encore par par Louis-Philippe, qui... D'abord
Louis XVIII et Charles X.
Elle a été donc...
Il la reconsacre.
Reconsacre, etc. Enfin, trois fois. Jusqu'au moment, n'est-ce pas, où arrive la dernière fois, Napoléon III refait la basilique Sainte-Geneviève, elle est donc à nouveau avec la croix qui est au-dessus, arrive 85, la mort de
Victor Hugo.
Victor Hugo. Qu'est-ce que l'on fait? On a 8 jours pour le faire. On enlève tout le monde. On enlève tous les bancs, les confessionnaux, etc. Et pour pouvoir y mettre à nouveau à la patrie reconnaissante. Mais on n'a pas le temps d'enlever la croix. Si bien qu'aujourd'hui, tous les grands laïcs qui sont là-bas, les Jaurès, etc., sont toujours sous la croix du Christ.
Au cœur de l'histoire revient dans un instant. Franck Ferrand sur Europe 1.
La plus célèbre moustache d'Europe 1 est avec nous cet après-midi.
Jean-Paul
parce
Roulant.
Que c'est Jean-Paul Roulant en personne. Alors, après l'émission sur Nicolas Flamel et sur la Tour Saint-Jacques, nous avions parlé d'Alfred de Musset. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le Musset que vous nous présentez dans ces pages, alors c'est pas du tout celui que j'avais présenté moi aux auditeurs. Vous nous présentez, moi j'ai présenté quelqu'un d'un peu neurasthénique, d'un peu triste, une sorte de poète maudit, puisqu'après tout il en est l'ancêtre et quasiment il est le fondateur du genre. Vous nous présentez, vous, un Musset farceur tout à fait rigolard avec sa compagne du moment, George Sand.
Ah oui, tout à fait. Et d'ailleurs, l'anecdote que je raconte, n'est-ce pas, le prouve amplement, puisque un jour, où elle recevait un grand directeur d'un journal, très sérieux, très austère, et il se déguise en petite bonne qui vient d'arriver, n'est-ce pas, à Paris.
Et, avec l'accent et tout.
Avec l'accent et tout, n'est-ce pas, qui vient du Pays de Caux. Et qui parle avec un accent extraordinaire et qui sert à table et qui fait toutes les bévues possibles. Elle apporte pour découper le poulet, elle apporte une hache en disant c'est la seule chose que j'ai trouvée, n'est-ce pas? Et alors, Georges a beaucoup de mal à se retenir, n'est-ce pas, forcément, et il accumule tout jusqu'au moment où il va aller jusqu'à renverser une carafe d'eau sur la tête du visiteur et il l'essuie, bien sûr, avec sa jupe en se troussant et elle va fondre en rire, et là, il va s'apercevoir que c'est une blague, c'est un canular, c'est le 1er avril, quoi, quelque part. Hein. Et donc, à ce moment-là, il va partir fâché, et George Sand va rire, va passer toute la soirée à remémorer cette histoire que je raconte, là.
George Sand, qui n'était pas la dernière à rire, ça, il faut le dire autant. Chez Musset, c'est surprenant, mais elle était...
Elle l'appelait mon grand gamin, oui. C'est mon gamin, disait ce gamin d'Alfred, c'est comme ça qu'on l'appelait, et elle était enchantée avec lui, ça a été un couple formidable.
Pour ne pas quitter les romantiques, un mot du fils de Victor Hugo, ça c'est assez amusant. Donc Charles Hugo, deuxième fils de Victor, d'ailleurs dont le père n'a pas toujours été un très bon père, mais enfin ça c'est une autre histoire. Non. Vous nous racontez l'histoire d'une célèbre côtelette.
Ah oui, c'est ça. Il était très amoureux d'une très jolie femme de l'époque qui s'appelait Alice Ozzie. Et donc, pour faire sa connaissance, il était amoureux d'elle. Il avait assisté à une soirée et il y avait beaucoup de monde. Il s'est caché sur le balcon. Il a attendu que tout le monde soit sorti pour se mettre à genoux, n'est-ce pas, devant elle. Elle lui a cédé, bien entendu, parce que il n'était pas mal. C'était un bel homme. Et puis c'était le fils Hugo aussi, bien sûr. Et donc, il était très amoureux d'elle. Et il avait une chose, c'est que le père Hugo était pingre comme ça n'est pas permis.
Il rationnait son monde.
Et il lui donnait une chemise blanche par semaine. Et Alice trouvait ça absolument dégueulasse, bien sûr. Et un jour, il a dit à son père, je veux changer 2 fois par semaine de chemise. Et le père lui a dit, eh ben, écoute, au lieu d'avoir 2 côtelettes le midi, t'en auras qu'une. Hein? Et il est devenu neurasthénique. Il ne l'a pas dit à Alice, mais il était quand même devenu propre. Mais il avait vu qu'il y avait quelque chose. Et un jour, elle le confesse et lui avoue que le papa lui donne plus qu'une côtelette. Et puis un soir, il y a quelques temps se passe, et un soir, le père Hugo se trouve à côté d'Alice Ozzie et il commence à lui faire du genou, du pied, du genou, enfin tout sous la table, etc. en disant, boudant comme il était le père Hugo, il se portait.
Il sautait sur tout ce qui bougeait.
Sur tout ce qui, oui, absolument. Et puis que ça soit son fils qui, il s'en fichait complètement. Ouais. Et à un moment donné, excité à l'extrême, il se penche à l'oreille de la distance et il lui dit, demandez-moi ce que vous voudrez, je vous l'accorde d'avance. Et elle lui dit, rendez-lui sa côtelette.
Jean-Paul Roulant, Petites histoires de l'histoire de France, c'est publié par Hugo et compagnie, et c'est dans une véritable tradition de l'histoire pour rire, de l'histoire amusante.
Tout à fait.
Il faut l'entretenir, cette tradition, parce qu'elle est belle et elle fait vivre la culture. On va entendre un autre amuseur parler ou chanter l'histoire à sa façon également.
Les Gaulois, cheveux blonds et tête de bois, longue moustache et gros dada, ne connaissaient que ce refrain-là. Nos ancêtres, les Gaulois, habitaient des huttes en bois et les druides, trois par trois, sous le gui chantaient à pleine voix. Nos ancêtres, les Gaulois, prirent la ville à Alésia. Les barbares étaient là, mais tant pis pour eux, Dieu, les Gaulois.
Salvador sur Europe 1, faut rigoler, c'est ce qu'on fait d'ailleurs.
Et vous avez toujours des anecdotes sur tout Jean-Paul Roulant, alors sur cette chanson notamment.
Oui, mais je vais vous poser une question d'abord. Oui. Vous savez qui a écrit les paroles de ça?
Eh bien non, je vous avoue.
Boris Vian.
Ah, le grand, c'est bon,
oui, absolument. Et alors, je vous disais que quand j'étais la première du bon numéro à l'Alhambra, il y avait donc Salvador qui chantait cette chanson-là. Et il y avait sa femme de l'époque, Jacqueline, qui était une toute petite bonne femme, haute sur des talons qui faisaient 20 centimètres. Elle était à côté de moi, elle avait un accent extraordinaire. Et pendant qu'il chantait, elle disait, moi j'étais en coulisses à côté d'elle, elle disait, bravo Henri, bravo. Oh, qu'il est mauvais. Il n'a jamais. Bravo, Henri, bravo. Oh, qu'il est mauvais. Il n'a jamais été aussi mauvais. Oh, bravo, Henri, bravo. Et puis arrive la fin de la chanson, il arrive et il lui dit, alors c'était, comment c'était? Il dit, Monsieur Roulant me disait que c'était mieux à la répétition. Alors il lui fait, lui, il connaît rien à ce qu'on l'a.
Les souvenirs de Jean-Paul Roulant, ces souvenirs parfois très lointains puisque certains remontent au Moyen-Âge dans cet ouvrage Les Petites Histoires de l'Histoire de France. On va continuer à reprendre nos émissions depuis un mois et puis apporter un certain nombre de correctifs grâce à cette vision que vous avez qui est celle, la plus belle qui soit, par le petit bout de la lorgnette.
Sur Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Petites histoires de l'histoire de France chez Hugo et compagnie, c'est le titre du livre de notre invité aujourd'hui, Jean-Paul Roulant. Franck.
Jean-Paul Roulant qui connaît comme personne et raconte magnifiquement toutes ces petites anecdotes, ces petits points de vue de l'histoire. L'une de nos émissions pour le Mardi Gras était consacrée à la gastronomie. Nous avons notamment retracé toute la destinée du grand Carême, Antonin Carême, le cuisinier et pâtissier. Nous l'avons fait notamment avec Jean-Luc Petit-Renaud, évidemment. Et nous parlions de ces grands gastronomes. Il y a un nom que je n'ai pas cité. Je suis ravi de pouvoir me rattraper grâce à vous aujourd'hui, Jean-Paul Roulant. C'est celui de Grimaud de la Reynière.
Tout à fait.
À propos d'un Mardi Gras très particulier dont vous nous parlez.
Enfin, il avait l'habitude de régaler le tout Paris, car c'était un fin gastronome. Il a écrit un livre. Le premier livre de cuisine, c'est lui qui l'a écrit, de gastronomie, absolument. Et il avait une particularité exceptionnelle. Il était né sans main.
Et, enfin, très atrophié, oui. C'est
très
ça, oui.
Atrophié. Enfin, il n'avait pas de main. Et on lui avait fabriqué des mains en bois. Et il y avait toujours un valet qui était avec lui pour tout faire. Et il régalait tout Paris. Il régalait le tout Paris, n'est-ce pas, à sa table.
Il habitait place Louis XV, qui est devenu place de la Concorde.
Voilà, il habitait à l'emplacement de
l'ambassade des États-Unis.
L'ambassade des États-Unis. Voilà, exactement. Et donc, un jour, dans tout Paris, se placarde un avis de décès et d'enterrement de Grimaud de la Reynière le mardi à 18h. Alors c'était le mardi gras. Comme par hasard. Tout Paris se dit non, mais c'était le dernier jour où on pouvait, parce qu'à l'époque, il faut dire que le mardi gras était très suivi, n'est-ce pas ?
Tout le monde faisait ça. C'était des repas indescriptibles, des festins.
C'était des festins toute la nuit, puisque jusqu'à minuit, on avait le droit de festoyer. Et donc, et lui, comme par hasard, cet enterrement se faisait le soir à 18h dans son hôtel. Alors, bien sûr, la majorité des gens n'y vont pas, et une quinzaine d'individus quand même brave le carême, enfin le mardi gras, pour aller donc dans son...
Les vrais fidèles, les vrais amis.
Les vrais fidèles. Et alors tout tendu de noir, les tentures, le catafalque, etc., tous les gens entendent, et puis ils attendent un quart d'heure, 20 minutes, et puis rien ne se passe, et puis enfin une demi-heure, arrive un valet, un laquais tout de noir, vêtu, et il dit simplement, mesdames, messieurs, voilà, monsieur est servi. Et à ce moment-là, les tentures tombent, pareil Grimaud de la Reynière, plus rayonnant que jamais, qui leur dit « Mes chers amis, merci d'être là. Vous me prouvez vous-même que vous êtes des amis et dignes de ma table. » Il paraît qu'on a fait ce soir-là un repas comme jamais on avait fait dans Paris.
Le meilleur moyen de sélectionner ses vrais amis.
Il y avait entre autres des brochettes de langue de pan. Brochettes de langue de pan. Vous imaginez le nombre de pans qu'il avait fallu sacrifier pour en faire des brochettes. Non mais entre autres.
Le raffinement à la romaine, on pourrait
à
dire.
À la romaine.
Lucullus dîne chez Lucullus. Alors nous avons parlé aussi, depuis un mois, de cette affaire Corneille-Molière qui, moi, me tient très à cœur. Et on peut dire que vous avez, vous, un coup de cœur pour Molière, car vous lui consacrez 3, 4, je crois même 5 chapitres dans les...
4, oui. 4 ou 5, en effet, oui.
Et alors,
anecdote.
Alors, vous nous montrez d'abord comment ce fils de tapissier, attention, tapissier du roi, hein, grand personnage, comment ce fils de tapissier a eu la vocation du théâtre. Ça, c'est grâce à son grand-père.
Alors, grâce à son grand-père qui l'emmenait voir Corneille, n'est-ce pas, parce qu'il venait de...
Et voilà, nous y sommes.
Hein, donc, il l'emmenait voir, et un soir, il rentre, n'est-ce pas, et il voit, et le père lui reproche de l'emmener au théâtre. Vous voulez en faire un pandard.
Reproche ça à son beau-père, oui.
Oui, vous voulez en faire un pandard de comédien. Hein, et le père se met en colère, et donc il y a une engueulade entre le père et le fils devant le petit Molière qui a 14 ans à l'époque, et je prétends en effet que c'est ce jour-là que la vocation lui est venue. Voilà, c'est parce que il a eu donc cette engueulade, et le grand-père qu'il suivait, n'est-ce pas, lui a dit Penouchot qu'il soit, pourvu qu'il soit le premier, enfin qu'il ait autant de talent que Monsieur Belle-Rose, qui était la grande vedette de l'époque, qui était le comédien qui jouait justement Corneille.
Molière était un peu comme Grimaud de la Reynière, il avait des amis fidèles qu'il entretenait au cours de soirées très arrosées à Auteuil. Et on a plusieurs témoignages de ça, de Chapelain, de Boileau, évidemment de Grimaret qui est le biographe de Molière. Et vous nous racontez une nuit particulièrement arrosée, vous.
C'est vrai, il a une nuit où en effet on vient le réveiller car le patron était parti, il était déjà fatigué. Et donc on va le réveiller en pleine nuit.
C'est Michel Baron qui va le réveiller, donc son...
Bien sûr, son homme à tout faire, qui l'a suivi tout le long, n'est-ce pas, de sa vie, et il va le réveiller, il lui dit, maître, il faut que vous veniez, parce que ils sont tellement sous qu'ils ont décidé d'aller se noyer dans la Seine, se jeter dans la Seine, et si vous ne venez pas, ce va être
le pire. Ils ont décidé un suicide collectif,
d'abord.
Et quand on dit « ils », ce sont tous les grands écrivains de l'époque, quasiment.
Voilà, exactement. Et donc, ils sont tellement sous qu'ils vont y aller, si vous ne venez pas. Et alors, évidemment, Molière met sa robe de chambre, descend dans l'escalier, il se trouve devant tout le monde. Hey, tu es là ? Ah ben le voilà, il va venir avec nous, etc. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Alors on lui explique en effet que, vu les vicissitudes de la vie, le mieux c'est peut-être d'aller tous ensemble se jeter. Et Molière les regarde et leur dit simplement, mais vous avez raison, je vais me joindre à vous. Et alors, stupeur de Baron qui est à côté de lui, mais il est devenu fou. Il est devenu fou lui aussi. Molière tourne le dos, fait 2-3 pas dans l'escalier et revient. Il dit, attendez mes amis, attendez une seconde. Je pense en effet que l'idée est si bonne qu'il faut qu'elle soit faite au grand jour. Il faut que tout le monde ait la connaissance de cet acte magnifique que nous allons faire. Alors je vous propose une chose, vous finissez votre soirée, et puis demain, on fera ça tous ensemble. Il est remonté se coucher. Et inutile de vous dire, ils ont continué de festoyer, et que jamais plus, on en a entendu parler.
Il y en a aucun.
C'est extraordinaire, la psychologie, n'est-ce pas, du misanthrope.
J'ai presque des scrupules à vous faire raconter tout ça, Jean-Paul Roulant, mais en même temps, ça me fait des vacances. Et puis c'est tellement agréable de vous entendre vous raconter tout ça, c'est formidable.
C'est vrai, on est des émissions
comme ça.
On voit vos paroles, c'est magnifique.
Vous nous dites que Molière avait une véritable générosité. D'abord, il était très riche, ça il faut le dire, parce qu'on
ne
présente
pas
toujours
assez.
Molière quasiment comme un
tout
prince
à fait. C'est-à-dire que le roi, n'est-ce pas, lui a octroyé tellement d'argent, enfin beaucoup, beaucoup d'argent, il était devenu très riche, à telle enseigne d'ailleurs, qu'il avait prêté de l'argent pour s'acheter une maison, fallait le faire quand même, n'est-ce pas, à Lully. Mm-hmm. C'est lui qui a prêté l'argent.
Son grand ennemi, on va dire, à la cour.
Non mais il avait la considération pour lui, il avait prêté. Et donc un jour, je raconte l'histoire, l'anecdote que je raconte, n'est-ce pas, c'est qu'il avait des serviteurs chez lui, il avait tellement de serviteurs qu'il ne faisait même pas le nœud de sa cravate. C'était quelqu'un qui était chargé de lui faire, pour vous dire quand même les choses. Parce que on a le souvenir de Molière
à l'époque, de l'illustre théâtre.
Voilà, l'illustre théâtre, c'est pas vrai. Et alors, il avait sa maison qui était juste avant le Théâtre Français, et il allait répéter donc sa dernière pièce, le Malade Imaginaire. Et il était donc toujours avec son fidèle baron dans la rue, et puis il est bousculé par un mendiant qui dit « Ah, votre bon cœur, monsieur !» Et Molière sort une pièce d'or et lui donne. Et l'autre fait « Merci, merci !» Il ne se rend pas compte. Et puis il continue la route avec Baron, et puis d'un seul coup, derrière lui, grand brouhaha, « Monsieur, messire, messire, messire !» Alors il s'arrête, il se retourne, et c'est le mendiant qui arrive, alors on s'interpose, on dit « Qu'est-ce qu'il va lui faire ?» Il fait « Regardez, vous m'avez donné !» ça. Et Molière fait « Oui, bien sûr, mais c'est en or, c'est en or !» Et Molière fait « Ah, mais oui, tiens, en voilà une deuxième pour la peine !» Et alors le mendiant reste là sidéré, Molière se retourne et fait « Où l'honnêteté va-t-elle se cacher ?» Formidable.
Jean-Paul Roulant revisitant nos grands mythes nationaux. Dans un instant, on va parler de Clémenceau.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Et Europe1.fr et la page Facebook de l'émission pour toutes vos questions à Jean-Paul Roulant aujourd'hui.
Vous arrivez à accomplir un véritable exploit, Jean-Paul Roulant, puisqu'il y a des personnages dans l'histoire que j'aime moins que d'autres. C'est vrai que je me suis beaucoup battu contre le mythe Molière. Et puis, j'ai pas une grande sympathie pour Clémenceau, c'est vrai, même si déjà l'invitation l'autre jour d'Alexandre Duval-Stalla m'a permis de réviser un peu mon jugement. Mais alors, vous nous le présentez sous un jour extrêmement favorable, ce Clémenceau.
Ah, j'aime beaucoup Clémenceau. Ah oui, il a été honni de son... C'était un trublion.
Ah, comment, oui.
C'était un trublion, mais il avait un tel esprit, n'est-ce pas? Il avait un tel esprit, c'est le fameux, pendant la guerre, foutez-moi la paix, je fais la guerre, n'est-ce pas? En disant ça à l'Assemblée. Alors, mais je raconte en effet deux anecdotes d'ailleurs sur lui, dont une, il était vieux, il ne faut pas oublier qu'il s'était présenté à la présidence de la République, c'était les grands électeurs.
En vain.
Hein, oui, bien sûr, et que t'étais les grands électeurs. Et il a été battu à 2 voix près, on lui a préféré Paul Deschanel.
Dont on dira un mot juste après.
Si oui, vous si vous voulez. Alors donc, il a été préféré, et il s'est drapé dans sa dignité, et il est devenu le vieux tigre solitaire, etc. Et alors donc, dans son appartement, qui est devenu un musée, n'est-ce pas, juste à côté de chez lui, il y a la cour, qui existe toujours d'ailleurs, qui est toujours là,
au numéro 8 de la rue Franklin.
Voilà, ce serait bien de l'indiquer, qui est occupé par ce qu'on appelait les frères à quatre bras, n'est-ce pas, parce qu'ils avaient un petit survêtement avec des petites manches. Et donc, qui s'occupait donc de
donc des ecclésiastiques, évidemment.
Des ecclésiastiques, absolument. Et alors,
pour l'archi-anticlérical qui était Clémenceau, c'était une cohabitation houleuse.
Tout
forcément.
À fait. Il ne faut pas oublier que Clémenceau, n'est-ce pas, quand il y a eu l'inauguration du Sacré-Cœur, Il était maire de Montmartre et il a coupé le ruban pour qu'on puisse rentrer à l'intérieur. Et il est resté debout à l'entrée. Il n'a pas voulu rentrer dans le Sacré-Cœur de Montmartre. Enfin bref. Alors donc il y avait devant une de ses fenêtres un arbre de la cour des curés d'à côté qui lui avait masqué la vue. Qui lui masquait le jour. Et donc, ses amis lui disaient « Mais pourquoi tu ne leur demandes pas ?»« Ah, tu m'as vu déjà aller chez les curés demander quoi que ce soit, s'il n'y en avait pas question. » Et puis un jour, à son insu, un des amis va voir le père abbé d'à côté et lui demande, lui dit « Regardez, voyez-vous-même, regardez la fenêtre, il n'a plus de jour. Le matin, il avait le soleil qui rentrait de chez lui, il n'a plus, ce vous pouvez faire. » « Mais on va lui, bien sûr qu'on va le faire. Mais écoutez, comme il est un peu sourd, vous faites ça, on va lui faire la surprise. Vous allez me faire ça un soir. Hein ?» Et puis donc, comme ça, le lendemain,
ça, il le verra pas,
et le lendemain arrive, on a élagué complètement, arrive le valet de pied dans la chambre, « Monsieur le Président, c'est l'heure, voici le... » Il fait un temps magnifique aujourd'hui, tenez, regardez, il ouvre les volets, et alors, le soleil envahit la pièce. Le tigre feule de joie, bien entendu, et il se rembrunit tout de suite. Il va falloir que je remercie les curés.
Ah, ça, ah oui, c'est, ça c'est l'inconvénient.
Eh bien, tenez, on va le faire tout de suite. Passe-moi mon écritoire. Alors le valet lui passe l'écritoire et il écrit mon père, permettez-moi de vous appeler. Mon père, permettez-moi de vous appeler mon père, ne m'avez-vous pas rendu le jour ? Donnez le jour. Et le père a répondu, mon fils, permettez-moi de vous appeler mon fils, ne vous ai-je pas ouvert le ciel ?
Alors, qui avait de l'esprit.
De l'esprit, oui, de toute façon.
Plus que Paul Deschanel, dont vous avez parlé, qui a été élu à la place de Clémenceau en 1920, et qui lui était un semi-fou, le pauvre.
Ah mais il était complètement fêlé. Pas peur des mots, c'était on a élu président de la République un fêlé, complètement, n'est-ce pas? Un jour, il était en train de déjeuner, mais on aurait dû s'en douter un petit peu avant, parce que un jour, il était en train de déjeuner à l'Élysée, d'un seul coup, il fait excusez-moi, il part dans le parc, et on le voit au sommet d'un arbre, il arrive, il fait coucou, coucou, au sommet d'un arbre. Une autre fois, n'est-ce pas, à Compiègne, qu'est-ce qu'il fait? Il passe à côté du bassin, et dans le bassin, on était en train donc de draguer, il y avait un type qui était rentré dans le bassin pour gratter un petit peu, il rentre pour aller le saluer et tout habillé, il rentre dans le bassin. Il a fallu qu'on prenne une barque pour aller le chercher.
Il est tombé du train aussi.
Alors ça c'est le summum, oui, mais ça c'est la fin. J'allais y arriver parce que c'est la fin de l'histoire, ça, puisque finalement il prend le train, il se penche à
train présidentiel, etc.
Le train présidentiel, bien sûr, officiel, tout à fait officiel, et il tombe, n'est-ce pas, en pleine nuit, il est sur le bas côté, et alors il y a deux types qui sont
en pyjama.
Il est en pyjama. Il y a deux types qui sont sur le bord, qui voient arriver un fantôme, qui leur dit « Je suis le président de la République ». Avouez que c'est quand même extraordinaire. Et alors, la phrase est étonnante, il l'emmène chez lui dans la garde barrière, alors il va se passer des tas de trucs avant qu'on s'aperçoive que c'est vraiment le président de la République. Et alors, on pose la question
au
garde barrière qui l'avait recueilli. On lui dit « Mais à quoi vous avez reconnu que c'était président de la République, ça pouvait être le président de la République ?» Il dit « Eh bien, j'ai regardé parce qu'il avait les pieds propres et j'ai vu que c'était un monsieur. »
Au cœur de l'histoire revient dans un instant. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Sa Majesté le roi Dagobert. Sa Majesté le roi Charibert.
Dada. Cha-cha. Ah, je ne m'attendais pas à te voir là. Alors là, pour une surprise, c'est une surprise.
Et une bonne surprise, pas vrai?
Tu es venu seul?
Non, j'ai amené, si je perds, avec moi. Prince, venez embrasser tonton Charibert.
Bonjour, tonton.
Bonjour. Vous allez bien prendre quelque chose?
Oui, Reims. Reims?
Qu'est-ce qu'il va faire, le petit, quand il sera grand?
Roi.
Hein? Roi? C'est un très bon métier, mais roi d'où?
Justement, de Reims. D'ailleurs, nous l'installons sur le trône demain.
Mais tu ne trouves pas qu'il est un peu petit pour monter sur le trône?
On mettra un escabeau. Oh, mais puisque tu es là, Chacha, pourquoi tu ne viendrais pas avec nous à Reims pour le couronnement du petit? Ça lui ferait plaisir. Et puis dans ces moments-là, on est toujours heureux d'avoir la famille.
C'est vrai que ça te ferait plaisir?
Oh, oui, tonton.
Eh bien, je vais te faire un cadeau. Je t'offrirai une belle couronne.
Tu vois?
Tu permets un instant?
Je t'en prie, Chacha. Mais ben, si tonton Charibert t'offre une limonade, surtout ne la bois pas.
Fernandel, Dario Moreno.
Chacha, tonton Charibert, ouais. C'était Dario Moreno et Fernandel, le roi d'Agobert dans le film de Pierre Chevalier en 1963. Nous sommes aujourd'hui dans cette histoire souriante et même carrément rieuse grâce à Jean-Paul Roulant qui publie aux éditions Hugo et compagnie Petites histoires de l'histoire de France. Dites-vous bien que tout ce que nous avons évoqué là, ce n'est vraiment que l'écume des choses, hein, c'est la crête. On aura peut-être dans cette émission raconté, je sais pas, une douzaine, une quinzaine d'anecdotes. Ouais. Il y en a des centaines dans le livre, c'est assez extraordinaire. Alors, pour continuer notre cheminement, nous avons, pendant ce mois passé, évoqué un certain nombre de grands sujets. Et parmi ceux qui ont eu le plus de succès, il faut bien le dire, il y a eu les lieux de plaisir parisiens. Alors, nous avons parlé en compagnie de Laurent Guimier essentiellement des maisons closes et on n'a pas parlé des cabarets de nus. Ça aurait dû faire partie d'ailleurs, c'est une vraie lacune. Et ouais. Vous nous parlez d'un cabaret et d'une danseuse nue dont on a oublié qu'elle l'a été. Ouais. C'est le grand écrivain Colette.
C'est une anecdote peu connue pour la bonne raison, c'est moi qui l'ai vécue. Alors il y a que mon environnement, n'est-ce pas, et ma famille qui la connaissent. Et j'étais donc chez Maurice Chevalier à la Louque, hein, à Marne-la-Coquette avec Belmar et toute l'équipe, on faisait une émission...
La famille, disons-le.
Et donc, il y avait sur le piano à queue, en rentrant, il y avait une grande photo, n'est-ce pas, d'une femme nue, en maillot chair, avec une dédicace. Alors, je regarde ça, donc pour la femme nue spécialement, mais je regarde la dédicace. Et je me dis, qui peut bien être là, en exergue?
Chez Maurice Chevalier.
Chez Maurice, sur son piano. Qu'est-ce qui peut être là? Et je m'approche en douce, comme ça, pour regarder la signature, et j'entends Maurice, qui me regardait du coin de l'œil, qui fait « Alors, Roulant, on reluque !» Tout rougissant, je dis « Non, Maurice, je regardais, j'essayais, vous savez qui c'est, là ?» Je dis « Non, c'est Madame Colette !» Je dis « Oh, Madame Colette, l'écrivain ?» Ou l'écrivaine, ça dépend, comme si vous êtes en Belgique, on dit écrivaine. Ah oui, je dis « Oui. Ah, vous connaissez l'histoire ?» Non, je vais vous la raconter. Et il m'a raconté l'histoire, il me dit « Voilà. »
Donc là, c'est de première source, là, de première main, cette
Tout à fait, je raconte ce que j'ai entendu. Et Maurice Chevalier me dit « Voilà, je débutais dans le métier, j'avais 17 ans. Hein. J'étais tout jeuneau, elle avait, elle, 15 ans ou 18 ans de plus que lui, et elle venait d'écrire Chérie, mais elle avait besoin de gagner sa vie, elle était danseuse nue, car elle était très belle, elle avait belle plastique, elle était danseuse nue dans un cabaret à Montmartre. Et quand j'avais fini, moi, mon tour de chant dans le Beuglant, j'allais la voir, j'étais amoureux fou d'elle, n'est-ce pas? Mais j'osais pas me déclarer. Mais par contre, mon bagou la faisait rigoler, hein. Et puis un soir, en sortant de la voir, dans l'entrée, j'étais seul, je fracture le cadre d'une des photos qu'il y avait. Il y avait la photo d'elle, cette photo-là, je la prends.
On est là dans les années, pour situer les gens, au début du XXe siècle, dans les années 1905-6.
C'est ça, 1909, ouais. quelque chose comme ça, 1908, quelque chose comme ça. Et alors donc, je prends la photo, je la ramène chez moi, je la mets dans un grand bouquin que j'avais sur la géographie que m'a offert maman, la Louque, et donc je le mets dedans pour... Je l'oublie, mes enfants. 44 ans. 44 ans après, en rangeant ma bibliothèque, je feuillette le livre et je revois la photo. Elle était devenue, Colette, bien sûr, la grande dame de la littérature. J'étais, moi, j'avais fait mon petit parcours, n'est-ce pas, hein, Hollywood, tout, etc. Et je me dis, oh, je vais lui faire dédicacer. Eh ben, c'est cette photo que vous voyez là avec la dédicace. Vous permettez que je la lise? Et alors, Colette avait écrit... Nous avions 20 ans.
Oui, parce qu'il lui a fait porter la photo. Hein.
Alors, il lui fait porter la photo et elle lui a renvoyé.
Elle habitait dans cet appartement du Palais Royal.
Elle était la vieille dame du clouée dans son fauteuil à cause de
Elle avait d'ailleurs le même accent rocailleux que Maurice Chevalier, mais pas pour la même raison.
Beaucoup plus rocailleux que lui. Hein. Ouais.
Et donc, Bourguignon.
Et alors, elle avait écrit de cette espèce d'écriture très large, etc. Elle avait écrit... Nous avions 20 ans. Nous aurions pu, vous n'avez pas osé. Aujourd'hui, vous oseriez que nous ne pourrions plus. Signé Colette. C'est beau, hein.
C'est magnifique. Et
des années plus tard, j'ai voulu, au cours d'une émission que nous faisions à la Louque, j'ai voulu montrer cette photo. Elle avait disparu. Je sais pas où elle est aujourd'hui.
Merci infiniment Jean-Paul Roulant d'Europe 1 d'être venu nous parler de ces petites histoires de l'histoire de France, de nous avoir fait rire avec ce que nous préférons finalement avec l'histoire. C'était un très beau 1er avril, merci. Et pour continuer ce feu d'artifice, voici Faustine Bollard.
Bonjour Franck. Deux sujets au menu de ce kiosque aujourd'hui. Tout d'abord, nous nous demanderons comment réapprendre à écouter nos sensations alimentaires. Pourquoi on a perdu la sensation de satiété? Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par là avant d'entamer un régime? Puisque vous savez qu'aujourd'hui, c'est la couverture de tous les magazines. C'est comment maigrir avant l'été. On en parlera.
Un marronnier.
Et puis, nous parlerons de ceux d'entre vous qui vivent avec un bypass. Cette opération chirurgicale qui consiste à retirer un morceau d'estomac pour mincir à tout prix. Nous pèserons le pour et le contre. On dressera un profil de ceux qui peuvent subir cette opération et on parlera également des risques et des dangers de ces opérations lourdes. Et puis un petit clin d'œil évidemment à Franck dans le billet d'humeur puisque c'est le bêtisier de la semaine.
Alors je ne fais pas la même erreur que la semaine dernière. Cette fois, je vais rester pour écouter ça. À lundi, Julia.
Bon week-end à lundi, Franck.